C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Beaucoup de choses ce matin. Évidemment, je pense que la nouvelle la plus importante, ce sont les données qui ont été publiées concernant le français. C'est pas très compliqué, là, le portrait, c'est-à-dire que le français recule à Montréal, le français recule au Québec et le français recule au Canada. Les chiffres sont quand même assez clairs. Je vous donne, je veux pas faire un tableau là avec beaucoup de chiffres, mais quand même, la proportion de Québécois dont le français est la langue maternelle a chuté, passant de 77 % à 75 % entre 2016 et 2021. Et là, après ça, vous avez des données sur les gens qui utilisent le français, par exemple, comme langue parlée à la maison, des gens qui, par exemple, utilisent davantage l'anglais, même quand vous regardez les chiffres, beaucoup d'immigrants qui sont passés par le réseau scolaire francophone, qui semble, la proportion est là quand même, plus confortable avec l'utilisation de l'anglais. L'autre réalité, puis c'est intéressant de regarder ça avec l'angle canadien, puis je lisais le Globe and Mail ce matin, un des papiers dit, de Conrad Jakubowski, le bilinguisme est mort au Canada. Parce que les francophones perdent de vitesse au Nouveau-Brunswick, perdent de vitesse en Ontario, je sais pas trop pourquoi, mais au Yukon, ça va un peu mieux. C'est marginal, mais quand même. Ça veut dire que le poids francophone au Canada est en perte et diminue. Ce qui amène, et on entre là dans cette période électorale, même s'il y a eu une loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec, c'est le débat qui va devenir aussi probablement un enjeu de cette campagne électorale. Comment fait-on pour mieux protéger le français? Est-ce que ça prend toujours des lois? Est-ce qu'on est allé au maximum de ce qu'un pouvoir législatif pouvait faire? J'ai pas de réponse ce matin, mais il y a comme quelque chose qui montre que les francophones, prenons le Québec, là, ça demeure une très, très forte majorité. Mais là où le recul est le plus important, Montréal, Laval et l'Outaouais. C'est quand même significatif. Et on n'a pas à être surpris combien de francophones ont quitté l'île de Montréal, notamment des jeunes, puis des moins jeunes aussi, pour des raisons d'argent. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre à Montréal, ou en tout cas, ils décident d'investir, par exemple, sur la Rive-Sud. On a vu des booms démographiques dans la Naudière, parce que les gens comme ça quittent. Et Montréal devient une ville de plus en plus avec des immigrants, avec une communauté anglophone, avec des francophones, bien sûr, mais c'est un portrait qui change. Et je crois que ce sont des données, puis ce que j'ai vu des démographes ce matin dans les commentaires, la tendance était claire depuis longtemps, mais on pensait pas que la cadence serait aussi forte, que le déclin du français se ferait aussi rapidement. Alors voilà pour le portrait du français. Je vous parlais de la campagne électorale. Et je regarde les analyses, puis on en fait tous les jours avec Jonathan Trudeau. Mais la campagne d'Éric Duhaime, et je comprends qu'il est devenu là l'espèce de cible des autres partis. Pas bien compliqué, là. Regardez le tableau. La CAQ est en avance, confortablement. Les sondages unanimes, CAQ majoritaire, le seul point d'interrogation, combien de députés? 80, 90, 100, t'sais, on est rendu là, là. On sait que le Parti québécois est au sol. On sait que Québec solidaire fait le plein, mais peut pas aspirer, d'après les sondages, à former un gouvernement. Les libéraux sont coincés comme jamais. Donc, l'empêcheur de tourner en rond, c'est Éric Duhaime, particulièrement dans la région de Québec. Puis là, on a vu certaines déclarations. On lui reproche ses propos qui l'ennemi à abattre, c'est Legault. Puis bon, d'avoir un discours qui propage la haine ou qui encourage la haine. Lui, il se défend de ça. Mais je vous donne l'exemple de ce matin dans le Journal de Montréal, puis ça s'ajoute à ce candidat qui, à un moment donné, disait qu'on devrait armer les profs parce qu'il partageait une caricature où on voyait, après une fusillade dans une école, une enseignante qui avait une arme à feu. Puis tout ce que Éric Duhem fait, là, quand il y a une connerie comme ça qui est publiée, quand on remonte un peu, c'est de dire « je me dissocie ». Je me dissocie des propos haineux. Je me dissocie des propos racistes. Je me dissocie de ses propos extrémistes. Ça en fait beaucoup. Ce matin, Journal de Montréal, le docteur Roy Epen, je pense, pardon, qui est candidat dans Notre-Dame-de-Grâce. C'est un candidat d'origine indienne qui est gay. Et lui, au nom de ses principes libertariens, dit qu'on ne peut pas voter une loi pour empêcher la discrimination. Il dit, par exemple, on ne peut pas faire une loi pour empêcher un commerçant qui, au nom de ses valeurs religieuses, mettons, refuserait de servir un gay ou un immigrant. Il est lui-même gay et fils d'immigrant, d'origine indienne. Il ne dit pas qu'il est d'accord avec ça. Il dit qu'il faut laisser la compétition. Et là, tout de suite, la gang d'Éric Duhem arrive en disant, évidemment, ses propos ont été tenus en 2014, n'ont pas de valeur pour nous. Puis on n'a pas l'intention d'ouvrir le débat là-dessus. Mais tu sais, quand tu passes beaucoup de temps à essayer d'effacer, d'éponger les conneries de tes candidats, ça donne pas l'impression que c'est une équipe, disons, de champions, là. Puis on va en avoir d'autres probablement qui vont apparaître. Et je le répète, depuis le début de cette période électorale, il y a de la place au Québec pour débattre d'idées de droite, d'un désengagement de l'État, de plus de place au privé. Mais quand c'est rendu que le véhicule qui est supposé porter ça est fréquenté par ce que j'appelle des faillés, là, puis ce qui me vaut une pluie de bêtises, m'en sac. Mais tu dis, veux-tu être associé à ça, un parti où on a des complotistes ou des gens qui ont partagé des théories complètement farfelues, puis qui aujourd'hui s'excusent, puis c'est pas ça que je voulais dire, puis c'était pas une incitation à violence, puis tu sais, entre une gaffe avec peu d'impact, peu d'effet, c'est une chose. Mais on dirait qu'il a réussi à recruter tout ce qu'il y avait de un peu flyé, complotiste et autres de disponible. Alors voilà pour ce qui est de cette campagne électorale. On revient sur le débat lancé dans cette émission sur les entreprises qui ont des permis pour polluer. Le ministre Benoît Charrette nous a dit, il y en a 89. Il nous a envoyé une liste incomplète, c'est-à-dire qu'il manquait les informations de base. On parle de quel type de polluant, quelle est la norme et quel est le permis, c'est-à-dire la capacité de dépasser la norme québécoise. Le ministre s'engage à rendre ça public dans les prochains jours, nous a-t-on dit hier matin. C'est une affaire. Les compagnies, plusieurs d'entre elles, lèvent la main en disant, là, puis il y a des papetières, c'est pas vrai ce que le ministre dit, là, on n'est pas dans le cas là, de la fonderie. La fonderie, on s'entend, là. Horn, c'est le pire du pire. Mais moi, je ne le sais pas, parce que personne n'a rendu ça public. Quelles sont les normes et quelle est la réalité? Qu'est-ce qu'on permet dans le fond, vraiment? Puis qu'est-ce que les compagnies font? Elles ont beau lever la main, là, puis nous envoyer des beaux communiqués sur du papier recyclé, ça ne dit pas grand-chose. Et c'est la responsabilité de l'État de dire, voici, pour ces 89 entreprises, le portrait réel. Ajoutez les propos du ministre Pierre Fitzgibbon, qui dit, personne ne va mourir, puis il faut donner le temps aux compagnies. On connaît le personnage, toujours très direct. D'abord, quand il dit, personne ne va mourir, là, convaincu, je vais faire une comparaison un peu grosse. Je suis convaincu qu'à une époque, on disait, fabricant de cigarettes, il y avait même des médecins qui faisaient la pub du tabac, ça tue pas personne. Je veux dire, je pense pas que c'est au ministre responsable de l'économie de faire une évaluation au niveau de la santé publique. Deuxièmement, plutôt qu'y aller de déclaration, je comprends ce qu'il dit aussi, là, que les compagnies doivent s'ajuster. Mais vous remarquerez une chose, les compagnies s'ajustent quand il y a une pression. La capacité de s'auto-réglementer et de s'auto-améliorer, j'y crois plus ou moins. Ça marche quand on les force, quand il y a une pression législative ou une pression publique très, très, très forte. Alors, on comprend ça, mais qu'on nous donne les chiffres, les citoyens ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur coin. Ce qui se passe avec les autres entreprises de Glencore, la maison mère. Il me semble que c'est un peu la base d'un débat. Autre nouvelle ce matin, le fameux tueur à gages, Frédéric Silva, qui avait été arrêté, reconnu coupable de meurtre, qui est devenu délateur durant l'été, donc il a viré sa veste, et confesse plusieurs crimes, les siens et d'autres commis par des collègues criminels. Félix Séguin, Éric Thibault, bureau d'enquête du Journal de Montréal, rapporte ce matin que ça pourrait permettre de résoudre des dizaines de meurtres liés à la mafia, aux crimes organisés en général, aux gangs de rue, aux motards, presque un exécutant qui remplissait des contrats. Un peu comme Galant, c'est-à-dire, tu veux faire assassiner quelqu'un, c'est combien, puis je te paye, puis je peux me passer à une autre organisation. Contrairement à d'autres tueurs à gages qui étaient des soldats d'une organisation, un gars comme Silva avait l'air de se promener beaucoup. Et ce qui rend, vous comprendrez, très nerveux les gens de la mafia italienne, les motards, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'on va être capable de prouver? D'avouer ses crimes, parce que quand on devient délateur, le premier principe, il faut tout avouer. Tu peux rien cacher. Alors, il a tué combien de personnes? Puis qu'est-ce qu'il peut dire sur les autres meurtres? Et quelle est sa crédibilité? Parce qu'ultimement, c'est ça. Crédibilité d'un délateur en cours, c'est clair que la défense va se faire un plaisir de partir après lui. Et semble-t-il également qu'il est articulé, malgré le fait que son éducation est limitée, et qu'il a l'air assez précis. Et la demande de ses services était tellement forte qu'il embauchait des sous-traitants pour tuer du monde. Quand même pas pire. Et il avoue avoir tué des gens par erreur. Si vous avez vu le film de Luc Picard sur Galant, il y en a eu des cas comme ça. Et surtout, je vous dirais, dans le cas de Galant, qui est un individu bègue, qui une personnalité à peu près inexistante, là, très, très effacée, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'émotions. Puis, tu sais, dans le fond, c'est être psychopathe, de pas accorder de la valeur à la vie, de tuer des... Mais ils se présentent tous comme des soldats. Galant dit, moi, je suis un soldat. Ma job, c'est ça. Puis, dans le fond, je tue des criminels ou des gens associés à des criminels. Alors, c'est dans le Journal de Montréal que vous pourrez lire ça ce matin. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, sera avec nous un petit peu plus tard. Beaucoup de questions sur la rentrée, le transport scolaire, pénurie de profs, pénurie de personnel spécialisé. Et il y a, semble-t-il, un sprint dans la négo là, concernant le transport scolaire. Je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs d'autobus scolaires qui nous écoutent, là, puis il y a beaucoup de parents qui commencent à être inquiets, là, qui se font dire, ben, préparez une option parce qu'on n'est pas certain de vous donner le service. On aura également la visite du président de la Caisse de dépôt, Charles Lébon. C'était assez prévisible de voir que la perte serait énorme. On parle de 33,6 milliards. Semble-t-il qu'on a commencé à reprendre du terrain un peu. C'est une perte papier. Là, je vous parle pas de la crypto-monnaie, c'est une autre affaire. Là, c'est une radiation. Là, c'est une perte de 200 millions réels. Donc, le président de la Caisse nous avait dit la dernière fois, c'est une mauvaise année qui se passe. Depuis l'été, puis regardez vos portefeuilles, là, de vos, ça va un petit peu mieux quand même. Là. Ça se replace, ça n'a pas retrouvé les niveaux d'avant la crise, mais il semble en tout cas que ça va un peu mieux. Alors, il y a plusieurs questions. Comment la Caisse performe par rapport à d'autres? Ça a l'air un peu mieux. Quel est l'avenir? Comment on va être capable de récupérer? Et comme tout le monde, la Caisse a été frappée durement dans ce qu'on appelle le portefeuille d'actions d'entreprise, parce qu'ils ont des placements ailleurs. Et le président nous dit, pas de danger pour le fonds de pension, le bas de laine des Québécois. Alors, on va pouvoir regarder ça ce matin. Ensuite, je veux terminer avec deux ou trois nouvelles ce matin. Il y a un article fascinant dans le New York Times concernant les changements climatiques en Europe et l'impact sur, par exemple, le coût de l'énergie. La Norvège, qui est un pays qui ressemble beaucoup au Québec, qui se chauffe, s'éclaire avec l'hydroélectricité, ils atteignent actuellement des périodes de sécheresse tellement fortes qu'ils ont de la difficulté à produire la même quantité d'électricité et les tarifs augmentent. La France, où il y a des feux de forêt sans arrêt. D'ailleurs, ils ont arrêté minimalement 26 pyromanes en France. Des gens qui mettent le feu volontairement, à part des effets de la nature. Donc, en France, les niveaux d'eau sont très bas. Dans certains cas, on a annulé des croisières, puis on a interdit aux bateaux de circuler parce qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est pas juste un petit phénomène, là. Et avec la crise en Ukraine, la guerre et les embargos pétroliers, les pressions sont fortes pour l'augmentation. Donc, les Européens vont devoir payer beaucoup plus cher leur énergie dans les prochaines semaines, sans parler des effets aussi à plus long terme de ces changements climatiques. Dans la catégorie « weird », comme on dit, il y a un tribunal qui a tranché. Puis vous savez, tout le débat aux États-Unis sur l'avortement, là. Alors, c'est un juge qui a déclaré qu'une adolescente n'est pas assez mature pour prendre la décision d'avorter. OK? Elle a 16 ans, ses parents sont décédés. Elle est enceinte, puis elle veut se faire avorter. Puis là, on a évalué sa maturité en cours, puis on a dit, savez-vous, elle n'est pas assez prête là, pour prendre sa décision. Le paradoxe qui est soulevé par d'autres, si elle n'est pas assez mature pour décider de se faire avorter, est-elle assez mature pour s'occuper d'un enfant? Est-ce qu'on va lui dire « accouchez madame » puis on va juger que vous êtes inapte comme parent? Alors, c'est un des autres effets assez pervers de ce virage sur la question de l'avortement. Et puis, dernier point ce matin, rapidement. Toute l'histoire de la présentatrice de CTV, de Belle, là, Lisa Laflamme, qui était la présentatrice, chef d'antenne du grand bulletin de CTV, qui a été congédiée, qui a envoyé cette semaine une vidéo, pour les gens qui ne le savent pas, en disant « je l'ai pas vu venir et on a décidé de mettre fin à mon entente ». Elle a 58 ans, puis on essaie de savoir pourquoi. Ses codes d'écoute étaient excellentes, une énorme crédibilité. Puis ce qu'on découvre à travers les branches, enfin, on fait le tour de certains médias au Canada. Un, le VP qui l'a mis à la porte est quelqu'un d'assez contrôlant, paraît-il, VP Information. Se met son nez dans l'éditorial, elle se serait, je dirais, confrontée à lui, notamment sur le budget de la couverture en Ukraine, elle voulait qu'on en fasse plus. Et troisièmement, Mme Laflamme a décidé d'arrêter de se teindre les cheveux, ce qui fait qu'elle s'est présentée à l'écran avec des cheveux gris-argent, si on veut, là, très argentés. Et ça a l'air qu'il n'a pas aimé ça, en disant ça vieillit. Imaginez, là, place des femmes à l'écran. Âgisme, ingérence, je sais pas trop. Mais la décision s'inscrit dans un renouveau, dit la direction de CTV.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Dans quelques mois, le plus grand chantier, je dirais, pour les gens de la Rive-Sud, va s'amorcer. Les travaux au tunnel La Fontaine. On sait que ça va durer pendant 3 ans. 3 voies sur 6 seront fermées. On a déjà aménagé ce qu'on appelle des systèmes des voies pour permettre de pallier aux problèmes engendrés par ces fermetures. Ce matin, pour en parler avec nous, Martin Giroux, qui est le directeur général des grands projets routiers de Montréal, il est le responsable du projet du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Monsieur Giroux, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcan.
D'abord, juste les données de base, là. Ça va durer 3 ans comme chantier. Est-ce que ça, c'est un maximum ou c'est un minimum 3 ans?
En fait, quand on parle du 3 ans, c'est pour la durée des entraves majeures. Donc les travaux vont durer jusqu'en 2026, mais au niveau des fermetures qui ont été annoncées le 4 août dernier, c'est pour les entraves majeures, donc le 3 ans.
Est-ce qu'il y a un risque de dépassement? Est-ce qu'on pourrait, je l'ai vu au pont Champlain, là, de dire on repousse, on retarde?
En fait, à ce jour, la conception du projet est avancée, quand même très avancée. Donc, c'est sûr que plus on avance, moins il y a de risques en fait qu'on découvre des imprévus. Mais en tant que tel, de ce qu'on a fait comme scénario, on est très très confiant que le 3 ans va être un maximum. Mais on est actuellement en train de voir s'il n'y a pas des possibilités d'optimiser la durée, donc de réduire la durée davantage pour réduire la durée des impacts.
Ça va coûter combien?
Actuellement, ce qui a été annoncé, c'est de l'ordre de grandeur de 900 millions. Sauf que actuellement, on est en négociation avec l'entrepreneur pour avec des firmes externes et nos gens de nos équipes pour négocier la partie travaux. À ça, faut penser aussi qu'au niveau du montant, faut prévoir. Il y a par exemple des risques. Il y a des enveloppes qui sont prévues pour des mesures de mitigation au niveau du transport en commun. Il y a différentes autres activités qui vont faire partie de cette enveloppe-là de l'ordre de 900 millions.
La prochaine question va vous paraître étrange, mais je vous jure, là, il y a plein d'auditeurs qui me la posent à tous les jours. On a compris que l'état du tunnel était pire que ce qu'on avait cru au point de départ, ce qui a amené donc des sommes additionnelles. Est-ce qu'on a déjà pensé à dire, plutôt que de rénover, on va construire un autre lien, le mot à la mode, là, peut-être un pont, ou faire un autre tunnel? Est-ce que ça aurait coûté moins cher ou la seule option, c'était vraiment de rénover le tunnel?
Ces aspects-là ont été regardés lors des études quand on initie le projet. Puis la construction d'un nouveau pont, d'un nouvel ouvrage, c'est très très complexe et de plus grande envergure des interventions qu'on fait là. Donc le fait de faire des interventions qui sont proposées actuellement permettent de prolonger la durée de vie de la structure de 40 ans sans entrave majeure. Donc c'est une structure qui a déjà 55 ans d'âge et à laquelle on ajoute encore une quarantaine d'années avec cette intervention-là. Et pour la suite, en fonction de l'évolution des dégradations, ben il y aura des décisions qui seront prises pour la suite. Mais cette structure-là est encore en bon état, donc elle a juste besoin d'une cure de rafraîchissement pour l'amener à un autre cycle de vie.
OK. 3 voies sur 6 seront fermées. En tout temps pendant les 3 ans?
En tout temps pendant les 3 ans.
2 voies d'un côté, 1 voie de l'autre.
Exactement.
Donc, c'est en direction de la rive sud, c'est 1 voie.
Exact.
En direction de Montréal, 2 voies. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est Montréal 1 voie puis 2 voies pour...
En fait, ça a été regardé avec nos spécialistes et spécialistes de l'entrepreneur pour voir quel scénario serait le moins impactant. Et clairement, il en est sorti que le scénario de 2 voies vers Montréal, 1 voie vers la rive sud était le scénario le moins impactant pour les usagers de la route. Un des éléments qu'il faut retenir, c'est quand on arrive de la rive sud, il y a une série de jonctions de voies avec la jonction de la 132, par exemple, qui amène beaucoup de contraintes. Puis le fait qu'on va vers Montréal, vous avez remarqué qu'en allant vers Montréal, on est en une pente montante. En plus, on tombe dans un chantier parce que la réfection des dalles du côté de l'autoroute 25, du côté de Montréal. Donc, il y a d'autres contraintes. Donc, si on avait seulement qu'une voie avec toutes ces contraintes-là, ça aurait été moins efficace que faire le 2 voies dans
Et c'est pas possible de changer les voies en tenant compte de l'heure de pointe.
Non, parce que en fait, il faut comprendre que pour des questions de sécurité, on doit ancrer les glissières, les séparateurs en béton entre les 2 directions dans le tunnel pour éviter s'il y a un incident, pour que ça déplace vers la direction opposée. Donc, on doit les ancrer, donc c'est pas possible de pouvoir les déplacer à chacun.
OK, mais là, le casse-tête, là, j'entends les gens dans leur voiture se dire un peu. Là. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a 1 voie vers la rive sud, en fin d'après-midi, quand les gens vont quitter vers la rive sud comme ils le font, là, ça va être le bordel complet.
Mais en fait, ce qu'on a vécu ce printemps en termes d'entrave, ça a été quand même assez difficile. Nous, selon nos prévisions, oui, ça va être plus difficile que ça l'a été au printemps, mais pas avec le chantier qu'il y a sur l'autoroute 25 au niveau de Montréal. On s'attend à ce que l'impact ne soit pas exponentielle par rapport à ce qu'on a connu au printemps passé. Donc, ce qu'on avait un peu comme ordre de grandeur, si quelqu'un en temps normal passe dans ce secteur-là, sans chantier, avec maintenant le chantier avec une voie, on peut parler d'à peu près jusqu'à 4 fois le temps prévu initialement. Donc, c'est sûr que ça, c'est sans accident. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a un incident, ben ce facteur-là...
OK, ça veut dire qu'en temps normal, là, si ça me prend 15 minutes, vous me dites ça va me prendre 1 heure.
Exactement.
S'il n'y a pas rien, là, s'il n'y a pas d'accrochage, si...
Exactement.
Wow. Justement, s'il y a un accrochage, quand il y a une seule voie, un véhicule qui tombe en panne, par exemple, qu'est-ce qui est prévu?
En fait, il y a des remorqueurs qui vont être en place en permanence dans les deux directions pour assurer, en fait, effectivement, d'évacuer le plus rapidement possible les véhicules qui sont en arrêt. Il y a aussi une unité d'urgence d'intervention qui est là en cas d'incident ou s'il y a un incident avec blessé ou incendie. Le tunnel, en fait, il est configuré. Les gens le voient pas, là, mais il y a deux tubes que les gens circulent. Mais entre les deux tubes, il y a des corridors de sécurité. Donc, si jamais il y a un accident, par exemple, dans le tunnel, il y a des intervenants d'urgence, des interventions d'urgence qui peuvent se faire via les corridors de service. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place, mais on est conscient qu'on doit encore travailler avec les services d'urgence. Il y a des rencontres, d'ailleurs, qui se...
Mais là, je veux comprendre. Vous me dites, entre les deux tubes, il y a un espace et des équipes d'urgence peuvent être installées à cet endroit-là.
En fait, ils peuvent intervenir via ces corridors-là.
Donc, ils sont pas là en permanence, là.
Ils sont disponibles en permanence dans le chantier.
OK, mais est-ce que ça va prendre plus de temps à envoyer des secouristes sur une scène d'accident pendant les travaux que ça en prend actuellement?
Ben, avec cette unité d'urgence-là, justement, c'était l'idée, c'est de pouvoir pallier à l'arrivée des unités d'urgence, mais sachez qu'on est en train de voir pour mettre des accès privilégiés vers les tubes. S'il y a des incidents, par exemple, sur l'autoroute 20, vu qu'il va y avoir des retranchements de voies importants, ça nous permet d'aménager une voie pour que les services d'urgence puissent accéder au tunnel facilement. Et du côté de Montréal, on va installer aussi un genre de tournebride qu'on appelle pour pouvoir permettre aux gens de retourner dans l'autre direction pour pouvoir libérer l'espace pour permettre l'accès aux services d'urgence.
En bon français, on va pouvoir faire un U-turn.
Exactement.
C'est quoi votre plus gros problème? Le casse-tête là, qui hante vos nuits, vous dites, ce bout-là des travaux, là, je sais pas trop comment on va en venir à bout. Je sais que telle étape, ça aura tel impact pour l'automobiliste.
Ben, je suis une personne très positive dans la vie, puis en général, c'est pour nous des défis. Puis on a des équipes quand même très, très expérimentées, autant au niveau de l'entrepreneur qu'au niveau des équipes du ministère. Puis on a aussi des partenaires qui nous assistent. Fait que donc, en fait...
Y a-t-il un moment où vous dites ça, là, c'est la période la plus cruciale du chantier?
Ben c'est sûr que la mise en place au début des entraves est toujours un peu stressante dans le sens que les gens doivent s'habituer. Donc, ce qu'on voit les deux premières semaines ne seront pas représentatives de la suite. Donc, c'est sûr qu'au début, on a toujours une certaine crainte, mais on est très confiant. On travaille quand même beaucoup de personnes qui sont très expérimentées. Donc, on a des modélisations aussi qui nous permettent maintenant avec la technologie de pouvoir anticiper les impacts, puis même les suivre en temps réel. Donc, la technologie aussi, elle nous aide beaucoup à pouvoir suivre tout ça, donc à nous rassurer par rapport aux interventions.
Une chance qu'il y ait du télétravail encore, parce que ça serait... Si on était dans le mode avant pandémie, ça aurait été vraiment un bordel. Ça veut dire quoi que vous avez calculé l'impact aussi sur les autres ponts, par exemple Jacques-Cartier, Victoria, Champlain. Vous attendez une augmentation, là, j'imagine, de circulation. Les gens vont passer par ailleurs.
Bien, en fait, le message qu'on veut passer, on est très conscient que il y a des impacts importants puis que les gens vont devoir vivre avec ces enjeux, mais on va tout mettre en place pour favoriser le déplacement vers les transports en commun. Donc, les gens qui peuvent aller vers le transport en commun.
Ça, c'est sûr. Le REM va entrer en service.
Le REM, en fait, ce qui est annoncé à l'automne prochain. Donc, c'est sûr que nous, en coordination avec le REM, on va assurer des liens vers ces, entre autres, vers le REM parmi les...
Mais quand vous faites vos simulations, là, vous prévoyez combien de plus au pont Jacques-Cartier? Vous dites tel pourcentage, vous devez calculer ça, j'imagine, l'impact sur les autres ponts?
Oui, mais j'ai pas nécessairement ces données-là, mais tu sais, l'idée, c'est d'essayer de trouver le plus de mesures possibles compensatoires pour pouvoir permettre d'aller vers Montréal. Puis, vous savez qu'on a mis en place plusieurs stationnements, 830 places de stationnement incitatif dans l'axe de la 20. Donc, on veut que les gens prennent les navettes qui sont prévues dans le corridor pour aller vers le métro Radisson ou autre transport qui permet d'aller vers Montréal, le centre-ville.
Parce qu'il y a déjà des impacts majeurs, là. Je pense à souligner tout ce coin-là, puis ça va jusqu'à Sherbrooke, puis déjà, c'est compliqué. Ça va être encore plus compliqué.
Mais faut dire que la reconstruction des dalles de béton entre Sherbrooke et le tunnel, il y a pas beaucoup d'espace. On est très restreint. Il faut aller tout reconstruire les chaussées. Donc les contraintes qu'on vit actuellement, ils sont très importantes. Donc
parce qu'on parle beaucoup de la rive sud là, mais Montréal dans ce coin-là, ouais. Là, c'est un cauchemar aussi là.
Ben c'est sûr que c'est difficile, mais il y a quand même des mesures qui sont mises en place, puis il y a encore beaucoup de travail à faire. On a beaucoup d'idées, donc on travaille avec nos partenaires depuis l'annonce, en fait, pour essayer d'ici novembre de trouver des mesures qui vont minimiser les impacts. On n'annulera pas complètement les impacts, là. On est très conscient de ça. On est conscient qu'il va y avoir des impacts importants, mais l'idée, c'est on veut juste s'assurer que ça puisse être acceptable comme... comme déplacement.
On s'est posé une question technique, si on veut, en voyant les installations sur la 132, une voie, deux voies. Bon. Comment vous allez déneiger ça l'hiver?
La largeur permet de tasser la neige sur les côtés, puis il y aura des opérations en fait de soufflage au besoin quand il y aura des précipitations plus importantes. Donc, voir une coordination accrue, on en est très conscient, mais pour nous,
on va être capable de tasser la neige puis de la ramasser sans bloquer la voie.
En fait, les largeurs de voie permettent ça, mais c'est ça. C'est sûr que par rapport à un axe habituel, il devrait être priorisé en termes d'opérations de déneigement. Donc, comme par exemple métropolitain, il y a différents axes qui sont priorisés quand il y a du déneigement, quand il y a des espaces plus restreints. Mais ça va être possible.
Question simple, curiosité. Habitez-vous la rive sud ou Montréal?
Je demeure sur la rive sud.
Dans le bout du tunnel ou pas?
Non, pas dans le coin du tunnel.
Vous ne prendrez pas votre auto pour aller à Montréal.
Mais il y a quand même plusieurs employés de l'équipe qui ont à circuler dans ce coin-là. Donc, ça touche quand même beaucoup nos gens également. Les gens vont adopter des modes de télétravail où ils vont changer leurs habitudes de déplacement donc par le transport en commun. Donc, c'est sûr que c'est le message qu'on va passer à nos gens à l'interne.
Les petits-enfants habitent à Boucherville. Ça va être compliqué d'aller les voir.
Ça va être un petit peu plus long. Il va falloir prévoir vos déplacements.
Quatre fois plus, vous m'avez dit, hein, c'est ça?
Oui.
Au terme de ça, là, ça va avoir changé quoi, le tunnel? Là? Vous me dites, on prolonge sa vie de 40 ans. Là, on est tous passés là, puis on a vu les tuiles manquantes. On a vu... ça va avoir l'air de quoi, au final?
Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est une surépaisseur de béton à l'intérieur du tunnel. Donc, on vient protéger, comme remettre à neuf l'intérieur. Et en fait, ça va être recouvert d'une genre de peinture, donc qui va permettre en fait de rendre ça uniforme. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va permettre d'assurer une protection incendie, puis aussi d'assurer une durabilité des 40 prochaines années sans entrave majeure. Donc, ça va donner quand même un ouvrage qui va être rendu à 80-95 ans à ce niveau-là. Donc, on peut être très fiers.
Puis, est-ce qu'on va changer la vocation des voies avec l'éclairage? Il y a eu des obstacles à un moment donné qui faisaient qu'on permettait pas aux camions de passer à telle voie. Est-ce que ça, il va y avoir des changements une fois les travaux complétés?
Non, il va y avoir des feux de voie, en fait, qui vont guider les usagers. Mais non, il n'y a pas de changement de prévu, en fait, en termes de corridors de circulation.
M. Giroux, merci beaucoup d'être venu.
Merci, c'est bien gentil.
Martin Giroux, le directeur général des grands projets routiers de Montréal, responsable du chantier du projet du tunnel Louis-Polyte-Lafontaine. Donc, on est tout près de la rentrée scolaire et à chaque année, il y a des enjeux et souvent ce sont les mêmes. En même temps, on veut voir un peu comment se prépare cette rentrée avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, je vais vous parler du transport scolaire. Là, je sais qu'il y a une rencontre, là, mais il y a des parents qui se demandent est-ce qu'il y aura du transport tout le temps? Est-ce qu'on prévoit un plan B? Quelle est la réalité ce matin, là?
Bien, c'est correct de prévoir un plan B, puis les centres de services scolaires s'activent à ça. Mais personnellement, je pense qu'on n'est pas rendu là au gouvernement parce que justement, il nous reste une semaine puis on utilise chaque jour. Hier, ça a bougé avec la négociation de, avec la nomination d'un négociateur là, central, M. Sauvageau. Les échos que j'ai eus d'hier soir, c'est que c'est très cordial aux tables. Ça a de l'air d'être juste d'être dans l'émotion, mais des fois, quand même, ça dit tout. Là, des fois, c'est très fermé. Ça a avancé hier. Et pour rassurer les gens aussi, juste vous dire, on est très conscient des enjeux du transport scolaire. Le coût du diesel, évidemment, la pénurie de chauffeurs et le coût de l'électrification. Et on a mis l'argent nécessaire pour ces trois enjeux-là. C'est pour ça que je suis confiant que ça va se régler.
Mais même s'il y a une entente monétaire, est-ce qu'on risque aussi d'avoir un problème avec la pénurie de chauffeurs? C'est-à-dire que même si vous entendez sur l'enveloppe, là, l'année passée, il en manquait des chauffeurs à plusieurs endroits.
Ça peut demeurer un enjeu, M. Arcand. La pénurie de travailleurs, là, c'est à la grandeur du Québec, puis le réseau de transport n'y échappe pas. Mais c'est sûr qu'en mettant les sommes nécessaires, puis on a rajouté de l'argent là pour des primes d'attraction, pour combler tous les postes de chauffeurs, on va être en meilleure posture cette année que l'an prochain. Mais écoutez, dans plein de secteurs, la pénurie, elle va être
les chauffeurs qui m'écrivent, là, ouais. Ils ont à peu près tous le même discours. On ouais. est payé des pinottes, on a des horaires brisés. Il y a bien des gens au Québec qui font plus d'argent, un taux horaire plus élevé que nous. Puis nous, on a la responsabilité de conduire des enfants.
C'est vrai que c'est des horaires brisés. Je suis très conscient de ça. Hein. C'est le matin pour faire les routes du matin. Puis même chose en fin de journée. Des fois, dans l'après-midi, il y a des sorties scolaires. C'est beaucoup des retraités qui faisait ce travail-là au fil des années. Puis, bon, quand il n'y avait pas de pénurie de travailleurs à l'échelle du Québec, c'était pas trop difficile de les recruter. Là, ben, on améliore leurs conditions. On l'a commencé déjà dès l'an passé à améliorer leurs conditions, puis on va continuer à le faire.
OK. Il vous manque combien de professeurs?
Il nous manque, je vous dirais, à l'échelle du Québec, selon les données préliminaires que j'ai eues hier, là, d'accord, parce qu'on va avoir un portrait beaucoup plus juste la semaine prochaine, on est autour de 700 enseignants. Faut mettre les choses en perspective, là, c'est moins de 1%, là, parce qu'il y a plus de 100 000 enseignants. Et on en recrute à tous les jours. Mais je vous dirais qu'on est là, et c'est semblable à ce qu'on avait au cours des dernières années, autour de la mi-août. Faut savoir qu'il y a beaucoup de postes là, qui se comblent à chaque jour au moment où on se parle.
Et est-ce que vous devez les combler avec ce qu'on appelle des enseignants qui n'ont pas toutes les qualifications requises?
Parfois, oui, mais pas seulement. Puis, je suis assez content de vous annoncer qu'on a pu recruter plus de 6000 candidats avec la campagne qu'on a lancée en mai-juin. C'est une campagne de recrutement qui s'annonçait à des gens qui ont un bac, supposons, en histoire, en sciences, en littérature, qui réorientent leur carrière pour devenir enseignant, mais il y a aussi plusieurs retraités de l'enseignement, donc des gens qui ont le brevet puis qui ont une expérience du tonnerre, qui ont dit, ben moi, je vais revenir. J'ai le goût de revenir, je vais retourner enseigner. Donc, ces gens-là, évidemment, aucun enjeu pour la qualification.
Puis pour ce qui est du personnel spécialisé, des orthophonistes et autres là, qui sont là pour accompagner, là aussi des postes à combler?
C'est dur aussi, effectivement. On a ouvert
beaucoup
de
postes. C'est pas que l'argent n'est pas là, c'est ça?
Non, absolument
pas. Les postes sont affichés, mais il y a...
Absolument. Il y en a plus. Je veux préciser quelque chose. C'est vrai, M. Arcand, qu'il y a un enjeu de pénurie, là. Bon, vous allez avoir n'importe quel ministre devant vous ce matin, il va vous dire qu'il y a un problème de pénurie de personnel. Mais en éducation, on peut pas juste tolérer ça puis dire tant pis, là, c'est trop important ce qu'on fait. Il y a plus de professionnels dans le réseau cette année que l'an passé, puis l'an passé il n'y avait plus que l'année d'avant. Donc, on réussit, malgré la pénurie, à toujours augmenter le nombre de psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, etc. Mais il reste quand même des postes vacants, donc c'est pas un problème d'argent. C'est un problème où on manque parfois de professionnels, mais les services cette année vont être supérieurs aux services de l'an passé. Ça, j'en suis convaincu.
Encore là, quand des profs m'écrivent, là, au ouais. primaire, secondaire, et tout ça, il y a deux ou trois, commentaires qui reviennent. Là. Le premier, c'est qu'ils se sentent souvent seuls à l'école, c'est-à-dire peu de soutien. Manque avec des classes, dans certains cas, là, où c'est plus complexe, où il y a des élèves qui ont été évalués avec un problème X, puis l'autre avec un problème Y, et ils sentent qu'ils sont pas soutenus.
Ça a été vrai longtemps, puis je vous dirais que si on avait pu recruter tous les professionnels qu'on avait voulu depuis 4 ans, dans le dernier mandat, la situation serait encore meilleure. C'est vrai que pour répondre à tous les besoins de tous les élèves, ça nous prend encore plus de techniciens, techniciens en éducation spécialisée, psychologues, orthophonistes. Ces postes-là sont ouverts. On en comble un peu plus chaque année. Il en manque encore. Par contre, il y a quelque chose qu'on a réussi, là, qui a fonctionné, c'est qu'en 4 ans, on a quand même augmenté de 20 %. C'est beaucoup, une augmentation de 20 %, le nombre de classes spécialisées. Moi, je pense que la plupart des élèves doivent être en classe régulière. On peut les intégrer avec des services, mais il y a aussi des élèves, puis je l'ai vécu comme enseignant, qui sont malheureux dans une classe régulière parce qu'ils ont besoin d'un cadre moins bruyant. Ils ont besoin vraiment d'accès à un professionnel direct. Puis, il faut qu'on leur donne accès à une classe d'adaptation. Ça, on l'a fait vraiment, puis on va continuer de le faire. Puis, c'est important. Ça améliore la classe régulière, puis ça améliore les services pour cet enfant-là qui n'est pas heureux quand on l'intègre de force.
Le deuxième commentaire qui revient, là, même si c'est pas formel, même si c'est pas un mémo, un courriel, beaucoup de profs disent avoir de la pression pour faire passer des élèves pour qui c'est pas une bonne idée parce qu'ils vont chuter un peu plus loin. Autrement dit, au nom de la réputation de l'école, au nom de la réputation du centre de service scolaire, là, on permet à des jeunes d'aller à l'étape suivante alors qu'ils sont pas capables de le faire.
Ça, je suis très ferme pour dire qu'il faut que ça cesse, absolument.
Mais vous constatez avec moi que ça existe encore.
Oui, moins qu'avant.
Mais c'est encore.
Ça, écoutez, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis bon, ça se peut que quelqu'un mette de la pression, puis une pression induite, puis il faut le dénoncer. Il faut pas endurer ça, là. Monsieur Arcand, au moment où je suis arrivé, le ministère lui-même gonflait les notes. Les gens qui, dans certains cas, aux examens ministériels, avaient 58, 59, le ministère, peu importe ce que l'enseignant avait mis, gonflait la note à 60. J'ai arrêté ça tout de suite. Il y avait aussi des fois des directions d'école ou des centres de services scolaires qui allaient changer la note de l'enseignant. Puis l'enseignant regardait son bulletin et disait, voyons donc, quelqu'un qui a touché ma note. J'ai changé la loi sur l'instruction publique. C'est maintenant illégal de le faire. Donc, quand même des gestes importants qui ont été posés. Mais ce qui peut rester, une direction d'école qui passe dans le corridor, qui passe un petit message à un professeur en disant, faudrait peut-être que tu augmentes ta moyenne de groupe. Écoutez, ça se peut. Je pense que c'est vraiment pas généralisé. Puis il faut continuer là d'avoir des hauts standards dans notre réseau scolaire.
Troisième commentaire que je reçois. Évidemment, c'est relié à la COVID. Beaucoup de profs me disent, parfait, ça, les détecteurs de CO2, mais il y a encore beaucoup de classes sur le plan de l'équipement pour la ventilation. C'est à peu près absent, là. C'est-à-dire, il n'y a pas de fenêtre ou c'est... Puis il y a des profs qui disent, on n'a jamais senti qu'à Québec, là, on prenait au sérieux les problèmes de ventilation en période de COVID dans les classes.
Ben, c'est inexact. On a pris au sérieux les problèmes de ventilation, d'aération. Dès le début, on a investi 500 millions dans les deux dernières années pour améliorer la ventilation. On a installé, oui, des lecteurs de CO2 dans toutes les classes, mais je précise quelque chose. L'installation des lecteurs de CO2, c'est en plus des 500 millions d'investis. J'ai vu des commentaires, des gens disent, ouais, ben, le lecteur de CO2, lui, il améliore pas la ventilation. Non, mais il aide à savoir où il y a des problèmes. Puis cet été, encore, il y a des travaux qui ont été faits. Les mesures qu'on a prises au printemps dernier...
Êtes-vous capable de me dire ce matin, il y a combien de classes au Québec qui sont pas bien équipées pour ventiler?
Écoutez, on est proche du 0 %.
Vous êtes
on
sûr
est
de
proche
ça?
Du 0 %. Mais c'est même pas mon opinion, M. Arcand. Au printemps dernier, là, les lecteurs de CO2 étaient installés. Et là, ça, c'est des mesures arbitraires, là, c'est pas une opinion militante, là. 95 % des classes au printemps dernier avaient des taux de PPM là, sous 1000, ce qui est une norme là, très sévère, 95 %. Et depuis ce temps-là, cet été, on a fait des travaux dans le 5 % des classes différentes, dans le 5 % des classes qui étaient plus inquiétantes. Et c'est vrai, M. Arcand, que dans certains cas, c'est la ventilation naturelle par ouverture des fenêtres, mais c'est efficace, ça fonctionne aussi, là.
Quand on a vu cette semaine à Radio-Canada les espèces d'appareils à 100 $ l'unité, est-ce que ça a été considéré ou pas?
Ça a été considéré. Moi, je me suis reviré devant nos experts, devant Dr Boileau et ses experts de la santé publique, devant l'INSPQ, qui nous ont dit, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas ce qui est recommandé. Ce qu'il faut faire, là, c'est pas brasser l'air dans la classe ou essayer de filtrer l'air de la classe. C'est sortir l'air vicié, faire entrer de l'air frais. T'sais, la ventilation, c'est ça qui est préférable. C'est ça qui est meilleur pour une bonne qualité de l'air, puis pour éviter les infections.
Est-ce que il y a des scénarios en cas, appelons ça, de malheureusement, reprise de certaines vagues de la COVID? Là, je sais, j'ai compris que faudrait quoi? Fermer une école ou une classe, il faudrait que 60 % soient absents. Les parents, si mon fils est dans une école, puis il y a des cas de COVID, je ne le saurais pas nécessairement. C'est quoi là, la politique COVID en éducation?
Bien, d'abord, c'est important de mentionner que la santé publique ne recommande pas les masques en ce moment. En fait, tout le monde peut porter un masque s'il est plus à l'aise avec ça, mais c'est pas obligatoire de le porter pour la rentrée. outil important, le dépistage, les autotests. Dès les premiers jours, on va distribuer 14 millions de tests aux familles via le réseau scolaire. Une boîte de 10 tests par enfant va aller dans les familles. On n'est plus en mesure d'urgence sanitaire. Hein? C'est terminé, l'urgence sanitaire au Québec. Donc, on n'a plus la vision de « on ferme les classes, on bascule en enseignement à distance ». Nous, là, on est en vision de on gère la COVID. Lorsqu'on est absent, lorsqu'on a des symptômes, on se retire quelque temps, mais les classes restent ouvertes.
OK. Un autre sujet complètement, là. L'étude, le portrait démographique montre que le français recule. Je disais, français recule à Montréal, recule à Québec, au Québec, puis recule au Canada. Trouvez-vous, malgré l'adoption d'une loi là pour renforcer la loi 101, qu'il faut adopter d'autres mesures? Vous êtes quand même ministre de l'Éducation, là, puis vous avez une influence dans la promotion et la protection du français. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus?
Bien, ces données-là sont inquiétantes. D'ailleurs, là, j'étais très surpris de voir Dominique Anglade. Ça la stressait pas. Elle, tout va bien, là. Moi, je pense que c'est très inquiétant quand le français recule au Canada et au Québec et dans le Grand Montréal. Les leviers qu'on a, c'est notre réseau scolaire. C'est l'éducation, absolument. Je pense qu'on a bien fait d'adopter la loi 96, là, qui améliore la loi 101. Évidemment, qu'on récolte pas les fruits de la loi 96 deux mois et demi plus tard. Là. Ça va payer au fil des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis il y a peut-être des leviers supplémentaires qu'on va devoir actionner.
Comme quoi? À vous
déjeuner là-dessus? Moi, je pense qu'en immigration, il faut vraiment travailler fort pour l'immigration économique francophone. C'est sûr que quand des nouveaux arrivants arrivent puis apprennent le français, c'est bien intéressant, mais il y a toujours un danger qu'ils parlent français, mais qu'ils ne soient pas des francophiles et qu'ils vivent en anglais. Et qui s'intègre à la communauté anglophone, qui consomme la culture qui n'est pas la culture québécoise. Moi, je pense qu'une meilleure intégration se fait lorsqu'on est capable d'avoir une plus grande proportion, pas 100%, mais une plus grande proportion d'immigrants francophones. Et c'est très important. La régionalisation de l'immigration, puis l'accueil d'immigrants francophones.
Mais le déclin, c'est Montréal, c'est Gatineau, c'est Laval, là.
C'est ça, c'est puis je veux pas dire que c'est la faute des immigrants, là. On en veut des immigrants, on fermera pas nos frontières demain matin, là. C'est pas ça la politique, c'est bien les choisir, bien les accueillir, bien les franciser, puis le plus souvent possible aussi qu'ils s'intègrent à la société québécoise en région.
OK, dernière question. Est-ce que après les élections, advenant une victoire, vous souhaitez continuer à l'éducation?
Ah, M. Arquin, vous savez très bien, je peux pas répondre à cette question directement.
Non, je vous demande pas si vous allez être ministre de l'Éducation. C'est pas vous qui décidez. Non. Vous, personnellement, souhaitez-vous continuer en éducation?
Je peux pas répondre à cette question-là, M. Arquin. Écoutez, c'est sûr que j'ai fait une grande partie de ma carrière en éducation, comme enseignant, comme membre de la commission du Conseil supérieur de l'éducation, comme critique, etc. Mais j'ai beaucoup de dossiers qui m'intéressent aussi. Faut savoir que je passe par le mouvement étudiant. J'ai été président de Fort Jeunesse.
Mais est-ce que votre travail est achevé en éducation?
Ça sera jamais achevé en éducation.
Non, mais personnellement, vous dites en santé, par exemple, je veux faire ça, j'ai besoin de deux mandats. Est-ce que c'est la même chose en éducation?
J'ai pas passé un message à Monsieur Legault en disant que le travail était achevé ou qu'il était inachevé. Là. Je pense que la première chose à faire, là, c'est de gagner la confiance des gens dans Chambly. Moi, je prends pas pour acquis mon élection dans Chambly, absolument pas. Puis c'est de gagner la confiance des gens à l'échelle du Québec. Avant de faire un prochain conseil des ministres, M. Arcan, là, je pense qu'on va laisser les Québécois décider qui ils veulent au gouvernement.
Ça, c'est sûr.
Ils méritent leur confiance.
Êtes-vous inquiet de perdre l'éducation?
Monsieur Arcan, je suis inquiet de ne pas avoir l'appui des Québécois pour le 3 octobre. On peut pas être confiant de gagner puis que le gouvernement va être réélu là, vogue la galère. Là, on peut pas présumer de l'élection. Et un sondage là, ça vaut le papier sur lequel il est écrit là.
Non mais si je résume en conclusion, vous pouvez perdre l'éducation pour deux raisons. Si vous n'êtes pas élu, puis si le premier ministre décide que c'est quelqu'un d'autre.
Pour être ministre de quoi que ce soit, ça prend trois conditions, M. Arcan. Il faut gagner dans son comté, faut que sa formation politique soit au gouvernement, puis faut que le premier ministre nous choisisse. Moi, ce que je veux, là, puis vous allez dire, ben ouais, c'est la réponse que tout le monde dit, mais c'est ça quand même, c'est m'engager pour les gens. Puis j'ai eu cette chance-là là, de faire partie de l'équipe du gouvernement Legault, qui je suis convaincu, va faire partie de l'histoire. Il va avoir des thèses de maîtrise, de doctorat qui vont s'écrire sur ce qu'on a fait. Là. Moi, je pense que depuis 1976, il s'était pas passé quelque chose d'aussi grand que ce qu'on a vécu en 2018. Puis j'espère qu'on va rééditer en 2022.
Monsieur Roberge, merci d'être venu ce matin.
Merci à vous,
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, on va faire le bilan de la situation à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, parce que c'était prévisible, là, c'est-à-dire les chiffres présentés hier. C'est le pire semestre en quoi? 50 ans de la Caisse avec un rendement négatif. Le président est avec nous, Charles Aymon. Monsieur Aymon, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi, 33 milliards là, sur cette période de 6 mois?
Oui.
De recul?
Oui.
Principalement dans le portefeuille des actions, j'ai compris.
Actions et obligations, parce que c'est ce que vous disiez, c'était le pire semestre en 50 ans sur ces deux marchés-là en même temps. C'est une correction rare d'avoir ces deux classes d'actifs-là en simultané. Et on a opéré dans le marché le plus difficile en 50 ans.
Est-ce que c'était, autrement dit, est-ce que le choc était anticipé? Est-ce que vous aviez prévu que ce soit aussi brutal que ça? Ou les marchés vous ont même surpris?
Ben, les marchés ont vraiment dégringolé. Écoutez, là, les indices boursiers obligataires, faire ça simple, là, ont tombé, dépendant du pays, entre -10, -30%. On a fait -7,9% dans cet environnement-là. Malheureusement, je me rappelais quand je suis venu vous voir au résultat de 2021 en février. Mmh. C'était le matin de l'invasion en Ukraine.
Ouais.
Et puis, je vous avais dit, l'année allait être historiquement exigeante. Fait qu'on voyait les signes pointer. Tu peux jamais prévoir combien, mais clairement, on savait qu'il allait avoir de quoi de très difficile devant nous.
Vous comparez toujours la performance de la Caisse avec l'indice de référence. Oui. Là, certains joueurs là, de même calibre, de même niveau. Est-ce qu'il y en a qui ont fait beaucoup mieux que la Caisse?
Beaucoup mieux, non. Peut-être un, Teachers, mais je vous dirais, là, les caisses de retraite, quand on regarde des sources de données externes qui sont publiées par des consultants, Mercer, tout ça, ont fait à peu près -13, -14, -15. Monsieur, madame, tout le monde, on regarde tout le temps aussi le portefeuille comme moi, là. Un portefeuille 60% actions, 40% obligations. Ça a fait -15. CalPERS aux États-Unis fait -12. On a vu le grand fonds en Norvège, le plus grand au monde, a fait -14, -14.5. Au Canada, quand même bien fait, les fonds de pension canadiens. Il y en a juste deux qui ont publié. Il y a le fonds régime de pension du Canada. On peut pas le comparer à la caisse. On peut le comparer à notre déposant qui est la RRQ. C'est sa sœur jumelle. Ils ont fait les deux -7.3, -7. Teachers a fait +1, ça a surpris, c'est le seul dans le monde qui est comme ça.
Question, comment ils ont réussi à faire +1?
C'est bien simple, il faut toujours regarder. Une stratégie peut être très payante sur une courte période, pas sur l'ensemble. Premièrement, ils n'ont pas le même mandat, par exemple, que le régime de pension. Ils s'occupent aussi du passif, des obligations, c'est-à-dire du passif de la dette, alors que nous, on s'occupe juste de l'actif. C'est nos déposants qui s'occupent de verser pension. Donc, ils vont jouer plus prudemment. C'est un portefeuille qui est plus mature, qui perd 6-7% par année de sortie de fonds. Donc, ce qu'ils ont, ça, pour rendre ça simple, ils ont 10% à peu près dans tous leurs actifs qui est dans le marché boursier public. Les autres fonds de pension, comme nous, le régime de pension du Canada, c'est 25-30. Ils n'ont pas subi la baisse dans 6 mois, mais ça leur a coûté plus cher les 4-5 dernières années avant quand le marché montait, puis probablement aussi dans le mois de juillet qui a monté beaucoup.
Est-ce que je comprends que, bon, ça, ce sont les chiffres pour les 6 premiers mois,
oui,
que depuis le début de l'été jusqu'à aujourd'hui, il y a comme eu un rattrapage qui s'est fait?
Oui, écoutez, il y a deux points très importants. Depuis 2 ans, on est dans une succession de conditions de marché qui va d'un extrême à l'autre. Donc, je donne un exemple. Pendant 6 mois qu'on a rapporté au 30 juin hier, on perd grosso modo, là, sur papier, 30 milliards. Depuis le 30 juin, en 4-5 semaines, on en a repris à moitié. Ça vous donne une idée de genre de marché dans lequel on est. Puis ça va continuer, ces turbulences-là, pour facilement un bon 6-12 mois. Mais moi, comme PDG de la Caisse, je regarde, puis je dis « OK ». Depuis 2 ans, là, il y a un contexte atypique, une guerre, une pandémie, de l'inflation, des taux qui montent, des taux qui baissent, marché qui monte, marché qui baisse. Comment qu'on a fait? Quand je parle aux déposants, quand je parle à mon conseil d'administration, puis cette période-là de 2 ans de crise, la Caisse a fait 7,3% par année. Puis son portefeuille de référence, la moitié, 3,6% par année. Fait que les actifs ont monté de 60 milliards. C'est ça, quand je dis aux gens de pas s'inquiéter, ça avait monté avant de 90 milliards, puis on a perdu 30 sur papier, ça fait 60. Les pensions sont nullement à risque.
Bon, ça c'est la question, parce que l'auditeur se dit, wow, wow, moi je regarde mon portefeuille, puis ça m'inquiète parce que mon revenu potentiel sur papier peut baisser. Vous dites aux Québécois, pas d'enjeu sur la capacité de payer les pensions.
Il y a un coussin, il est encore important même après le 30%. On a rattrapé. Ça n'a rien à voir avec la situation de 2008, mais absolument pas. La performance de la caisse est aux antipodes de ça à l'époque. Faut comprendre aussi, quand les taux montent,
comprennent 2008, là, vous parlez des papiers commerciaux.
Ouais, on n'est pas du tout là-dedans, là. La performance est au-dessus de nos indices, ça va bien, on a rattrapé un bout. Je veux dire, ce qui est difficile, puis on le sait, c'est dur pour les gens de ce temps-ci, là. Tout coûte plus cher, l'accession à la propriété, les taux montent, puis ils voient leur relevé de placement, ça baisse. Mais moi, dans la partie que je contrôle à la caisse, je peux leur dire que leur pension, il y a un coussin, c'est nullement à risque, même après cette baisse-là sur papier.
Parlez-moi de l'aventure en crypto-monnaie. C'est une radiation de 200 millions. Là, il y a un joueur qui a complètement culbuté.
Oui.
Avec le recul, c'était-tu une mauvaise idée d'aller investir en crypto-monnaie?
Écoutez, moi, je dis tout le temps à mes équipes, crypto ou autre investissement, quand tu perds ton argent, ça n'a jamais été une bonne idée en partant. Vous savez, personne n'est content de ce résultat-là à la caisse. Moi, le premier, puis les équipes sont imputables, ils le savent. Puis on se met les yeux devant un trou quand ça marche pas, on dit « qu'est-ce qui s'est passé? » Bon. De l'autre côté...
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. Ben, on est probablement rentré trop tôt. Vous savez, c'est un marché, on n'est pas les seuls. BlackRock, il y a la semaine dernière, a lancé de quoi dans la crypto, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, tellement qu'il y a de la demande chez ses clients. On est probablement rentré dans un secteur trop tôt, qui est en transition au niveau réglementaire. Elle avait une hyper-croissance. Et là, elle n'a pas été capable de gérer cette crise de croissance-là. C'est fragilisé financièrement. Il y a eu la crise d'un marché qui a entraîné crypto. Puis nous, on a amené une nouvelle, le conseil d'administration, parce qu'on avait juste 4 % dans la société. Le numéro 2 de la Banque Royale. Là. Des gens très compétents, mais ils ont manqué de temps, qui sont arrivés en février, ils ont manqué de temps pour mettre le plan en place. Fait que des fois, on avait des bonnes intentions. C'est un gros marché de 3 trillions qui est tombé à 1 trillion. Il y a des vingtaines de banques là-dedans. On voulait aider à réglementer le secteur. On voulait capturer le potentiel de la technologie blockchain. Mais ça n'a pas fonctionné.
Avez-vous l'intention de réinvestir éventuellement en crypto?
Non, pas pour l'instant, pas du tout. Non, absolument pas.
Ça n'arrivera pas.
Non, puis vous comprendrez, hier, j'ai réservé mes commentaires aussi. C'est une situation particulière. On veut préserver nos droits, puis on va peut-être explorer aussi nos options légales.
OK. Vous m'aviez dit, et vous l'avez répété, 2022 sera une année difficile, puis on le voit là, au bas, ben bon. Est-ce que vous croyez qu'on va entrer dans une période de récession à un moment donné, dans ce brouillard-là, jusqu'en 2023?
Ça va être... C'est notre scénario de base. Est-ce que c'est une récession? C'est peut-être un fort ralentissement. Je vais faire attention aux mots exacts. Mais cette espèce de scénario de ralentissement slash récession, c'est 50 % de probabilité. Et la raison, c'est que je pense que le marché est très heureux dès qu'il voit l'inflation baisser un peu. Très excité par la direction. Tant mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la destination. Parce que si on va dans un environnement où est-ce que les banques centrales, ils font baisser l'inflation, oui, mais ça reste plus élevé que 2 % comme avant, comme ça a été pendant 20 ans, puis que la croissance est plus faible. C'est plus juste un retournement du cycle économique. Là, on rentre peut-être dans un nouveau régime. C'est ça, nous, qu'on regarde à l'horizon. Est-ce que c'est ça qui pourrait être compliqué. Parce qu'en 2020, le marché espère un peu ce qui s'est passé. Ça a remonté, injection de stimulus pour les gouvernements puis les banques centrales. Mais là, c'est l'inverse. Le stimulus est en train de s'en aller. Puis les taux montent, puis les banques centrales se retirent. Là, on est des vents de face, c'est pas la même chose.
Monsieur Aymon, merci beaucoup d'être
venu. Merci.
Au revoir. Charles Aymon est le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
C'est tous les week-ends, c'est bien des longs week-ends. On partirait tous les longs week-ends.
Alors, un des chouchous de l'émission, le chanteur acadien Laurie Leblanc, qui nous présente un nouvel album.
Long Week-end, le rêve d'Alain Crête, oui, et de toute l'équipe, évidemment.
Finalement, oui.
D'avoir un long week-end à chaque semaine. C'est notre Laurie Leblanc qui est là pour bien partir la fin de semaine avec ce nouvel album. Moi, j'ai cette chanson en tête depuis la semaine dernière quand je l'ai entendue. C'est un autre verre d'oreille comme Moïto, Moïtou. Et l'été de Laurie Leblanc se passe très, très bien. Vous l'avez peut-être vu à la fête nationale acadienne à Radio-Canada en début de semaine. Nous l'a été invité. Il a fait beaucoup de kilomètres parce qu'il est en tournée, évidemment, avec sa conjointe Jeannette. Et moi, je lui ai parlé, d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, et en pleine forme, il m'a parlé justement de ce nouvel album qui est bilingue. Donc, vous avez 6 chansons en français, 6 chansons en anglais. Puis, je lui ai demandé justement pourquoi offrir un album dans les deux langues.
On avait débuté le marché anglais il y a quelques années, les derniers albums anglophones. On voulait continuer notre vague. Avec la pandémie, ça n'a pas été facile du côté de développement anglophone. Puis, on voulait retourner aux sources francophones. Donc, j'ai un gros public qui est présent côté francophone. Puis moi, mes tunes, c'est une musique américaine, c'est rythmé, c'est les accents acadiens, puis du chiac, c'est un peu ça. Puis on a voulu avoir un peu de positif, puis de soleil après les deux autres pandémies. Donc on a été avec un album Long Weekend, qui est bilingue, si tu veux, puis avec des textes qui beaucoup été festifs, cocktail, vacances. Sais-tu, j'ai quand même plusieurs pièces comme country reggae, Moitou, il y a des chansons. On aime le sud, on aime l'été.
Tout est bon quand c'est cuit sur la grill. Des ribs, du steak, pis des burgers, du tout. Faisons la barbecue dance.
Et comme Laurie l'a mentionné, c'est vrai que ça parle beaucoup de vacances, tu sais, la barbecue dance. Il y a plein d'autres titres aussi qui amènent au sud. Ils aiment beaucoup la Jamaïque avec Jeannette. Puis ils ont manqué leur voyage, évidemment, avec la pandémie, mais ils vont se reprendre. La chaleur, le soleil, le coconut, et ça se transcende dans les chansons. Bon, je vous ai parlé de la barbecue dance. Vous avez aussi « C'est l'heure du cocktail »,« Soleil en bouteille »,« I like it topless »,« Viva les vacances » ou encore « À la Beach Boys » avec collaboration du groupe Les Hey Babies.
Ça sera de la fun, fun, fun à la biche toute la journée. Il y a du monde à la biche qui font les beach bumps. Il y a du monde en flip-flops qui joue au beach volleyball. Il y en a d'autres en tank tops assis sur le beach chairs. Ça sera de la fun, fun, fun à la biche toute la journée.
J'adore ça.
Moi aussi, j'aime ça. Et en parlant avec Laurie, il m'a dit que c'était possiblement son dernier album dans la forme actuelle. Il veut pas se retirer de la musique, mais remarque que l'industrie a quand même beaucoup changé dans les dernières années.
Ben, mettons, on regarde depuis quelques années que les points de vue d'avoir des albums physiques, ça diminue toujours. Les gens sont streaming, sinon des USB avec les MP3 dans les chars et des choses de même. On est presque d'un monde de simple, de single, de EP et de digital. Donc, on a une tournée de Long Weekend qui va durer peut-être 18 à 24 mois. Puis par la suite, je pense qu'on va être dans le monde de extraits. Puis, il a été avec le paquet avec un double album pour ce que j'appelle le dernier album physique ou le dernier plein album. À moins qu'on en ait bien plus qu'on pensait, là, mais on voit que ça diminue de plus en plus. On est chanceux côté country que ça vend encore, mais c'est ça que c'est un peu l'évolution qui s'en vient. Puis on va essayer de suivre le bateau et peut-être en avant du bateau.
Deux, trois margaritas, quatre tequila au beau bar. La vie est belle quand c'est tout inclus dans un five star. C'est l'heure du cocktail. Olé, olé, c'est l'heure du cocktail.
Et Laurie, faut dire qu'il y a un bon bassin de fans. Je vous parlais de la fête acadienne où il a été invité. Nomination au prochain Gala Country Québec à Saint-Tite en septembre prochain. Nomination aussi à Nashville au José Music Awards. Et je vais demander à quel moment il a senti sa carrière véritablement lancée.
Ben écoute, c'est drôle que tu dis ça, Catherine, parce que honnêtement, moi, j'ai fait ma première chanson comme solo dans les années 2010 avec la chanson La Pitoune. Puis ça a bien marché partout en Acadie, puis un peu ailleurs. Mais en 2016, quand l'équipe chez vous a tourné Moitou, ça a comme ouvert les portes parce qu'on s'entend qu'on était quand même. Moi, j'ai un technicien de génie civil. Jeannette avait son bureau à la maison. À partir de ce moment-là, là, que c'est là qu'on a décidé de lâcher nos business, puis on est plein temps tous les deux depuis le moment de 2016. Donc, c'est la chanson Moitou encore. Je l'ai faite hier. C'est la chanson qui m'a été demandée par l'équipe qui tournait hier à Radio-Canada, puis le show là-bas, puis les gens aimaient ça, puis c'est beaucoup grâce à Paul, puis Émilie, puis toutes vous autres, l'équipe qui a ouvert des portes.
J'ai besoin d'un mojito, mojito. Chin chin pour la fun, chin chin for the sun, les vacances qui commencent.
Alors, je me souviens 2016, quand Émilie a fait tourner ça, là. Tu te dis, mais qui est ce gars-là? Puis ça vient d'où? Mais, aucune idée, là. Ça tombe du ciel. On a appris à le connaître, puis les autres albums, il y a tellement le sens de la mélodie, de la toune.
De la répartie aussi.
Aussi.
C'est très imagé comme texte.
Puis ça fait du bien.
Oui.
Tu comprends, on n'est pas dans les chansons existentielles où on s'arrache les veines, là. Il y en a beaucoup de ça, malheureusement,
oui.
Je trouve. Mais en tout cas, un public, j'imagine, là. Mais lui, t'arrives, là, t'écoutes ça tranquille.
Puis t'as le sourire.
Et voilà.
Puis t'as envie d'un petit cocktail avec ça. Alors, Laurie Leblanc, le nouvel album, c'est Long Weekend.
Merci beaucoup.
C'est 23.